Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une émission consacrée au passé et donc au présent, puisque, comme disait Malraux, l'avenir est un présent que nous fait le passé. J'en entends là qu'ils réfléchissent un peu. C'est très bien de réfléchir, on va réfléchir dans cette émission, mais pas seulement avec nos deux auteurs tout à fait du présent, mais qui ont le bon goût de regarder d'un œil soit critique, soit ému, ce passé qu'ils n'ont peut-être pas envie de laisser passer. Déjà, ça fait de beaux livres, et puis rien n'interdit de le considérer, ce passé, de l'examiner avec autant de tendresse que d'alacrité, de fantaisie aussi. C'est le cas des livres de nos deux invités. Michel Zinc, d'abord, le grand spécialiste du Moyen-Âge, professeur au Collège de France, académicien, qui republie « Seuls les enfants savent lire ». C'est aux belles lettres et c'est un hommage très piquant à ses lectures d'enfance. Et avec lui, Charles Danzig, qui publie, lui, à l'heure où le château de Chambord fête ses 500 ans, un très beau « Chambord des songes » chez Flammarion, sous-titré « L'idée de château mène le monde ». Soit une tentative par les mots, par les images, par les souvenirs et les songes de remeubler Chambord, ce château vide, ce gâteau de flammes posé sur une plaine, comme il l'écrit. Bonjour Michel Zinc.
Bonjour.
Je le disais, médiéviste illustre, médiéviste romantique, apprend-on dans ce livre. J'aime beaucoup l'appellation.
Personne n'est parfait, finalement, c'est très mal vu par les médiévistes.
Professeur honoraire au Collège de France, vous étiez venu ici en 2017, il y a 2 ans. C'était déjà le passé pour L'humiliation, le Moyen-Âge et nous, qui n'était pas un essai contemporain, quoique. Et pour la publication en poche de votre essai sur les auteurs des plus anciennes chansons d'amour, les troubadours, tous ceux qui se sont penchés un jour sur les aventures de Lancelot, du roi pêcheur et du Graal vous ont forcément trouvé sur leur route. Vous voici devant nous pour un nouveau livre qui n'en est pas un, puisque je le disais, c'est une réédition. Le titre est le suivant, « Seuls les enfants savent lire », c'est publié aux belles lettres. Et c'est un regard, depuis le présent, sur ce que vous lisiez enfant, des livres que certains auditeurs, certaines auditrices connaîtront, ou pas. Je vous avoue que moi, si je connaissais évidemment Les Aventures de Culberry Finn de Mark Twain, je ne connaissais pas À l'ombre des ailes d'Ernest Perrochon, ni Le voyage d'Edgar d'Edouard Pesson, qui pourtant, à vous lire, provoque une sorte de ravissement. Pourquoi, Michel Zinc, ressortir un livre sur les livres du passé que vous aviez déjà publié dans le passé? C'est du passé au carré.
Oui, ben vous voyez, je peux être accusé de toutes les façons d'écrire sur le passé au carré, puisque mon métier, c'est de m'occuper de la littérature française dans son état le plus ancien, et en plus, je m'occupe de mon état le plus ancien à moi, ce qui est d'un narcissisme odieux, enfin, je le reconnais. Et non seulement ça, mais en plus, je republie ce livre, etc. Enfin, c'est une construction en abîme, n'est-ce pas, comme on apprenait autrefois. Bon, mais, bon, je suis régressif, je m'occupe, donc je vis beaucoup dans mon enfance, mais aussi, je pense que l'enfant est un excellent lecteur parce que il a une sensibilité extrêmement vive à tout ce qui l'entoure, parce que son monde est limité et étroit, donc tout est important. Il ne comprend pas tout parce qu'il ne sait pas tout, mais en même temps, il comprend plus qu'il ne comprend. Essayer de cacher quelque chose à un enfant, c'est très difficile. Si vous disputez avec votre femme, essayez ensuite que vos enfants ne s'en doutent pas, c'est extrêmement difficile, n'est-ce pas? Et bien de même pour les lectures. Et j'ai vécu ensuite toute ma vie en ressassant, en somme, ces lectures de mon enfance, et je me suis demandé, j'ai essayé de reconstituer l'effet qu'elle me faisait à l'époque, ce que j'en comprenais, parce qu'évidemment j'ai complété par la suite, mais en comparant avec ce que j'en pense maintenant. Mmh. Et j'ai essayé de le faire sans trop tricher, c'est-à-dire sans relire ces livres. Mmh. Mais naturellement, entre la première édition et la deuxième, je les ai relus.
Mmh. Mais vous avez corrigé justement, puisque c'était il y a 10 ans, hein,
non,
sur les enfants.
Non, je n'ai pas corrigé. J'ai ajouté une toute petite postface, mais je n'ai pas corrigé puisque c'était ça. J'ai corrigé un détail. Sur L'âme aux trois visages de Lucie de la Rue Malredru, j'avais un souvenir faussé de l'intrigue qui faussait aussi les deux mots que j'en dis. Donc, ça, j'ai corrigé.
Mais donc, 10 ans après, vous sentiez le besoin de, finalement, de nous offrir de nouveau une piqûre d'enfance.
Oui, 10 ans après. C'est pas moi qui ai décidé de rééditer. C'est la directrice des belles lettres, Caroline Noirot, qui m'a dit, je dis ça tout content de moi, qu'elle a lu ce livre à haute voix à son fils, que c'est du temps, c'est pourtant pas un livre vraiment pour enfants, qu'il a été très content et que du coup elle avait envie de le rééditer.
Très bien.
C'est la gloire absolue.
Donc c'est un enfant qui a validé, finalement.
Exactement,
c'est l'enfant de la...
C'est plus que je pouvais rêver. Voilà. Alors, le titre, naturellement, ça reprend le sous-titre du Petit Prince,
exactement,
les enfants savent, et j'ajoute lire ce qu'est-ce que les enfants devraient savoir le moins. Est-ce qu'on leur reproche de ne pas savoir?
Bonjour Charles Dantzig.
Bonjour Christophe.
Les auditeurs de France Culture vous connaissent par vos livres, le dictionnaire égoïste de la littérature française, le traité des gestes à propos des chefs-d'œuvre. Il y en a beaucoup d'autres, mais aussi par votre émission sur cette antenne, Personnages en personne, portrait hebdomadaire d'un personnage de fiction. Alors avec ce nouveau livre, Chambord des songes, donc qui paraît chez Flammarion, c'est aussi finalement une sorte de personnage dont vous vous emparez, le château de Chambord, personnage réel, personnage aussi de fiction, en tout cas à vous lire. Qui fête cette année ses 500 ans et que vous nous emmenez visiter avec ce livre, qui n'est pas troussé à la manière d'un banal mémorial livresque, plutôt comme une promenade scandée par des courts chapitres, une trentaine, qui lui refont à ce gâteau de flammes, comme vous l'appelez, à ce château vide, de nouveaux meubles. Alors vous passez du désastre de Pavie à Philip Ross, de Charles d'Orléans à Trump, de la mode de l'escarfignon ou de l'échappin, comment dire, aux querelles Valois-Bourbon-Orléans, avec toujours votre ton, aphorisme, liste, saut et gambade, érudition et méchanceté parfois, et c'est délicieux. Un château, c'est du passé. Pourquoi en parler au présent, Charles Dantzig?
Parce que je pense que le passé, ça n'existe pas. Le passé, je ne crois pas au passé en tant que bloc de temps séparé et détaché de nous. Le passé, on ne sait pas ce que c'est une interprétation, et d'ailleurs le passé n'est jamais que ce qu'on veut qu'il soit, en fonction de ce que nous voulons être. Et je trouve que cette période-là de ce qu'on appelle le passé de l'histoire de France, à ses origines et l'humanisme, est une chose dont nous avons bien besoin en ce moment, parce que c'est une chose très attaquée. Le livre est parti d'une idée qui m'a frappé, que j'ai conçue, elle est peut-être fausse, mais j'avais écrit il y a longtemps, mes premiers livres étaient un livre qui s'appelait « La guerre du cliché » où j'essayais d'établir une distinction entre le cliché et le lieu commun, parce que le grand Robert donnait la même définition des deux mots, et pour moi ça ne me va pas. Quand on donne une même définition pour deux mots, ça ne me va pas. Eh bien, un peu de la même façon, pour ce livre-ci, je me suis rendu compte que la langue française était peut-être la seule langue du monde, en tout cas la seule langue importante du monde à avoir deux mots là où les autres langues n'en avaient qu'un. Les Anglais disent dream, les Allemands disent traum, les Italiens disent sogno.
Pour le rêve, ouais.
Voilà, ils disent rêve et nous avons rêve et nous avons songe. Et c'est une chose très mystérieuse. Nous avons ces deux mots. Et s'il y a deux mots, il y a deux choses. Et donc, ce que je propose dans ce livre, après avoir réfléchi à cette distinction très étrange, c'est que je crois que le rêve est une chose stérile et néfaste et que le songe est une chose créative et faste. Ah, et on peut appliquer tout ça.
Il faut expliquer un petit peu, Charles Dantzig. Pourquoi le rêve serait néfaste?
Je pense que le rêve, d'après la définition, enfin, l'idée que j'en ai, le rêve, c'est une histoire de midinette qui rêve d'être célèbre, qui est une fantasmagorie de gens stériles. On rêve parce qu'on veut devenir célèbre, parce qu'on veut rencontrer Michael Jackson, parce qu'on veut... Alors que le songe, qui était un grand mot de Victor Hugo d'ailleurs, le songe est une chose qui indique la pensée la plus profonde et la plus réfléchie. Ouais. Et donc à partir de là, je pense que l'histoire de François Ier de ce château, c'est ça. C'est-à-dire que le jour où François Ier a décidé, suivant le rêve de certains de ses prédécesseurs, d'aller embêter les Italiens et de les conquérir, il a fini emprisonné pendant un an par Charles Quint à Pavie. Et le jour où il a songé, il a en particulier songé à créer un des plus beaux châteaux du monde, qui est Chambord. Ouais. Mais ça peut s'appliquer à Napoléon.
Donc c'est une leçon pour aujourd'hui.
Mais bien sûr.
Alors, c'est bien de parler de songe, parce que d'ailleurs, vos deux livres, alors Chambord des songes, évidemment, c'est dans le titre, peuvent se caractériser par la notion de songe. Parce que chez vous, Michel Zinc, quand vous songez à ces lectures du passé, je ne sais pas si vous y rêvez ou si vous y songez. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie plus guère aujourd'hui, le mot songe.
Non, mais la distinction de Charles Dantzig est fondée. Le songe, c'est de somnium. Donc c'est le sommeil et les visions, les illusions, mais quelquefois les vérités qui vous apparaissent dans le sommeil. Et rêve, on ne sait pas trop, on le rapproche de Desvé, le fou furieux, voilà. Et c'est l'esprit qui bat la campagne, de sorte que,
Desvé, comment dit-on, c'est ça?
Desvé. Desvé, c'est le fou furieux.
Et rêve viendrait de...
On n'en est pas sûr. Ouais. C'est pas très clair. Puis moi, je suis pas philologue pur et dur. Mais enfin, en gros, c'est ça.
Merci à tous les deux d'avoir bien voulu partager ce temps des écrivains qui n'a jamais aussi bien porté son nom, puisque de temps, j'aimerais que nous parlions. Un écrivain, la question s'adresse à vous deux, est-il quelqu'un, même si Charles Dantzig, vous avez en partie répondu à la question en disant que le passé n'existe pas, en tout cas pas comme un bloc. Mais est-ce qu'un écrivain n'est pas quelqu'un qui connaît le passé dans une époque dont on dirait qu'elle est de plus encalminée dans le présent, même si en ce moment, par exemple, la Révolution française revient dans les passions populaires?
Oui, notre époque vit beaucoup dans le présent où notre civilisation, c'est-à-dire que notre civilisation suppose qu'il y a une rupture entre le présent et le passé. Et notre présent, d'une certaine façon, remonte à la Révolution française. Beaucoup de nos institutions datent de la Révolution française, même quand elles sont antérieures. Exemple, les académies. L'habit d'académicien était dessiné par David, c'est un habit de général d'Empire. Ouais. Bon. Et nous considérons qu'il y a une rupture et qu'avant, c'est différent. Et du coup, nous considérons que nous sommes mieux. Nous sommes les héritiers des lumières de la Révolution française, c'est très bien. Le reste, c'est bien si on peut le récupérer là-dedans. La plupart des autres civilisations du monde ont le sentiment d'un continuum, non pas du tout le sentiment d'une rupture.
Vous pensez quelle civilisation? Mais
la civilisation chinoise, malgré la révolution, la civilisation japonaise, la civilisation de l'Inde, les civilisations africaines et la civilisation de l'islam, qui ne peut pas considérer le passé comme passé, puisque le texte sacré est non seulement dicté, est écrit par Dieu. Donc, il est intouchable. Mmh. C'est une langue qui, comme langue officielle, ne peut pas évoluer dans un aspect de langue.
Donc, l'idée de passé serait européenne, au fond. Enfin,
L'idée d'une rupture avec le passé. Mmh. L'idée qu'il faut toujours se justifier de s'occuper du passé. L'idée que le passé n'est acceptable que s'il correspond à nos propres valeurs et à nos propres idées.
Alors, est-ce qu'un écrivain, donc du coup Charles Dantzig, serait celui qui rétablit finalement le continuum, qui met fin à cette rupture passé, présent, à venir aussi?
Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire qu'un écrivain bouche les trous. D'ailleurs, moi, je ne suis pas écrivain. Et je pense qu'il y a un travail de l'imagination qu'apporte l'écrivain dans les choses que l'histoire ne sait pas, qui peuvent être très intéressantes. D'abord, il faut dire que même l'histoire très sérieuse est encroûtée de légendes. Moi, je me suis rendu compte en lisant ce livre. Par exemple, deux faits qui m'ont frappé, c'est que l'affaire des placards, au moment du règne de François Ier, vous savez, les placards, c'était ces affiches de propagande protestante dont l'une aurait été affichée sur la chambre même de François Ier, à la porte même de la chambre de François Ier. Je n'en ai trouvé nulle source. Mmh. Nulle source. Donc, qui me dit que ça n'est pas une chose qui a été inventée par la cour elle-même pour provoquer une persécution des protestants en disant quelle atteinte à la personne du roi? On ne sait pas. Et par exemple, une chose qui m'a frappé aussi, c'est que la France entière connaît et répète les vers fameux de François Ier, souvent femme varie, bien folle, qui s'y fie. Eh bien, ces vers, François Ier ne les a jamais écrits. Mmh. Ces vers sont une invention de Victor Hugo dans Le roi s'amuse. Mmh. Eh bien, Victor Hugo, en inventant cela, a procédé à un travail d'imagination, mais l'imagination, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, à mon avis, n'est pas une fantasmagorie, mais un rapport de déduction logique. Victor Hugo a imaginé, a inventé les vers qu'il était le plus probable que François Ier invente lui-même. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à certains moments dans ce livre, pour des passages d'histoire qu'on trouvait.
Je posais cette question sur le passé et les écrivains et ce continuum et cette rupture dans la mesure où souvent on dit que Proust est le dieu des écrivains, en tout cas l'écrivain des écrivains, que À la recherche du temps perdu serait le titre que tous les écrivains auraient aimé trouver peut-être pour leur livre. Le temps retrouvé aussi, peut-être encore mieux. Est-ce que vous avez aussi, vous deux, cette intuition, cette sacralité d'ailleurs aussi, ce respect, plus que du respect, cet amour de Proust, parce que c'est celui qui finalement a réparé ce trou, a raccommodé, a retissé finalement le texte perdu?
il y a deux passés très différents. Il y a le passé de l'histoire que nous pouvons essayer de connaître, de reconstituer, de rectifier intellectuellement. Et puis, il y a notre propre passé. Le temps perdu et retrouvé de Proust, c'est le temps personnel. C'est un temps vécu, puisqu'il s'agit de vivre et de faire revivre ce temps. Et le temps, la relation au temps est très différente s'agissant de nos travaux, nos travaux de savants, et ce que nous vivons nous-mêmes. Il y a une profondeur personnelle du temps qui dépasse un peu notre propre vie, mais qui ne remonte pas au-delà de ceux que nous avons connus. Et c'est pourquoi le passé, pendant très longtemps, c'est l'époque des grands-parents. Regardez, dans La Belle au bois dormant, elle dort 100 ans et elle portait un collet monté comme en portaient nos mères grandes. Et les contes, ce sont des contes de grand-mères.
Que vous lisiez, c'est par exemple dans Seuls les enfants savent lire, la plupart des livres dont vous parlez sont des livres déjà qui sont des livres de grand-mères de cette génération, de ce temps-là, de ce temps rêvé d'ailleurs.
Oui, dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, non. Ce qui est frappant pour ce qui est de l'enfant, c'est que il lit de façon à peu près identique tout ce qui lui tombe sous la main et qu'il l'assimile à sa propre sensibilité, à sa propre intelligence, sans chercher à modifier son mode de lecture. Donc, c'est un tout petit peu différent, mais c'est vrai. Oui.
Charles Hansig, sur Proust,
bah, moi je trouve que Proust est un... Enfin, je vais être très audacieux, je veux dire que Proust est un génie, mais pour moi, Proust est un génie parce qu'il a assoupli la langue française comme personne n'avait réussi à le faire avant lui. Il l'a étiré à un point au bord de la rupture qui est assez inouï, dans une langue qui est assez rigoureuse, et n'oublions pas qu'il écrivait au temps d'Anatole France, et il écrivait tout le contraire d'Anatole France. Donc pour ça, il a eu une audace extraordinaire. Quant au rapport au temps, je pense que c'est une ruse de Proust. Vous savez, d'abord, À la recherche du temps perdu, je trouve que c'est un assez mauvais titre.
Ah oui,
je trouve que c'est un assez mauvais titre, un titre un peu sentimental. Et sauf qu'il y a une loi de la littérature, c'est que quand le contenu est bon, il suinte sur le titre. Quand on a du génie, on peut écrire tous les mauvais titres qu'on veut, ça devient bon. Et À la recherche du temps perdu, voilà. En plus, il y a une ironie quand même. N'oublions pas que Proust était le plus grand des ironistes. Et quand il dit À la recherche du temps perdu, je pense aussi qu'il a mis pour dernier mot de son roman le mot temps avec une majuscule pour bien signaler aux gens sérieux qu'attention, c'est un livre sérieux, c'est un roman sérieux. C'est sur le temps. En réalité, c'est sur le temps qu'il a perdu lui-même dans la mondanité.
Exactement. Mais alors, on peut peut-être citer, pour le plaisir, encore, on la connaît par cœur, mais cette dernière phrase de la recherche, du moins, si elle, la force, m'était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre, ne manquerais-je pas d'abord d'y décrire les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable à côté de celle si restreinte qu'il aurait réservée dans l'espace, une place au contraire prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les années, à des époques si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps. Il y a quand même le distinguo qui est fait entre la petite place, le lieu que nous occupons. Il est beaucoup question d'ailleurs du lien entre le lieu et le temps. On en reparlera avec vous, Charles Hansig. Mais ce distinguo proustien, entre, en gros, sur la place, on ne peut pas faire grand-chose. Mais sur le temps, il y a cette plongée infinie qui est possible.
Oui, moi j'admire peut-être moins que vous la dernière phrase, parce que...
Elle est longue.
Bon, elle est longue, ça on peut pas lui reprocher. C'est le style de Proust. Mais elle n'est pas longue, elle est longue comme si elle était prévue d'un bout à l'autre. Et alors que très souvent, si vous lisez Proust à haute voix, ce que j'ai fait à mes enfants, j'ai lu À la recherche du temps perdu, moi je trouve le titre très bon, d'un bout à l'autre. De longtemps, je me suis couché de bonne heure à la phrase que vous venez de lire, à haute voix. Et il y a des moments où je commençais une phrase et je devais reprendre parce qu'elle prenait un tour à un moment donné qui ne correspondait pas à mon ton du début. Et ça, c'est la beauté du style de Proust. Tandis que là, il y a, dans la dernière phrase, une sorte de solennité
La capitale dont parlait Charles.
Oui, qui la rend prévisible. Au contraire, il y a effectivement, dans le titre, À la recherche du temps perdu, quelque chose, mais qui est un hommage au roman d'aventure. Proust aimait Stevenson, par exemple. Et moi, je me suis consolé d'aimer Stevenson le jour où j'ai vu que Proust l'aimait. Eh bien, c'est cela. Et non, c'est pas seulement un ironiste, c'est un humoriste. C'est le livre le plus drôle de toute la langue française, Proust. Et la dernière phrase...
Oui,
n'est
vous.
Pas. Voilà. N'est pas drôle. Mais, en revanche, le lieu étant, bien sûr, et c'est cette distinction même qui est divisée entre les deux premiers volumes, mais pour des raisons d'édition, entre nom de pays, le pays, hein, et où l'approche de la question du temps et du fait que le temps, qu'un instant, tout ça se fait dans l'instant, peut revivre, se fait à travers l'imagination du pays, à travers le nom, et cette découverte du pays qui devrait oblitérer ce qui précède et qui ne le fait pas.
De toute façon, vous savez, dans Proust même, le temps n'existe pas. Il y a des ellipses de temps dans Proust considérables. Il passe 80 pages à faire une soirée mondaine et une croisière que fait Odette avec Forcheville, je crois, et qui est supposée durer un an, est décrite en une demi-phrase. Donc le rapport accordéonesque, si je puis créer un mot au temps de Proust, est quand même assez frappant. Ce qui est frappant dans la dernière phrase que vous avez citée, Christophe, c'est le mot, pour moi, de personnage. Ça n'est pas le mot de temps, c'est le mot de personnage. C'est-à-dire que pour moi, tout roman, tout bon roman, est un roman de personnage, parce que c'est incarné. Et ce que fait Proust dans son livre... Et c'est là où ça justifie son titre, c'est qu'il fait une guerre à ce qu'on appelle le temps. Parce que qu'est-ce que fait le temps? Il détruit le personnage, il ne laisse que les lieux, les monuments, les bâtiments. Et nous, pauvres créatures, nous tombons dans la pourriture. Eh bien, le travail d'un romancier, et d'un romancier comme Proust, est de faire revivre les personnages et les hommes. Et d'ailleurs, ça n'est pas loin d'être une déclaration humaniste qu'il fait à la fin de son livre.
Comme Proust, et comme vous aussi, Charles Hantzig, et comme vous, Michel Zinc, qu'on va continuer à plonger dans ce passé que vous regardez avec un regard extrêmement contemporain, mêlant votre propre rapport au temps avec un grand T. On va commencer par vous, Michel Zinc. Mais on écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Schubert, Am Brunnen vor dem Tore. C'est le numéro 5, Voyage d'hiver, interprété par Dietrich Fischer-Dieskau, évidemment, au piano Alfred Brendel.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Winterreise de Schubert, Am Brunnen vor dem Tore, interprété par Dietrich Fischer-Dieskau et au piano par Alfred Brendel. C'est le choix de Michel Zinc qui publie aux belles lettres, qui republie Seuls les enfants savent lire. Michel Zinc, c'est votre choix musical. Le Winterreise, donc 24 leaders pour piano et voix, composé un an avant sa mort par Schubert sur des poèmes de Wilhelm Müller. Pour thème, on trouve le voyage, la solitude. L'idée aussi que le bonheur ne peut apparaître que sous forme de souvenirs et d'illusions. Pourquoi ce choix musical, Michel Zinc? Est-ce qu'il dirait que vous seriez un nostalgique, vous, l'énergique spécialiste des contes du Graal, des romans de chevalerie?
Oui, alors, je ne suis pas si énergique. Et,
Quand on a écouté vos cours.
J'aime Schubert, ça n'a rien d'original. Et au regard de moi-même, c'était moins pour la Winterreise en général que pour ce poème particulier, Wilhelm Müller n'est pas un poète prodigieux, mais ce poème concentre les thèmes du romantisme allemand et de l'adaptation, enfin, ou de la récupération par la poésie des thèmes de la chanson populaire et de l'imaginaire romantique allemand. Le Wanderer qui part, qui quitte ce qu'il aime, qui part le cœur déchiré, dans Am Brunnen vor dem Tor, da steht ein Lindenbaum, etc. Et le rêve, ich träumte in seinem Schatten so manchen süßen Traum, près de la fontaine, devant la porte de la ville, il y a un tilleul. J'ai rêvé sous son ombre tant de doux rêves, etc. Bon, j'ai gravé sur son écorce.
Et non pas songé. J'ai rêvé.
J'ai songé. Bon, oui, mais comme le disait Charles Dantzig, il n'y a qu'un mot en allemand. Et pour ma part, cela me renvoie d'une part à la façon finalement, donc je suis devenu médiéviste, parce que quand je dis que je suis un médiéviste romantique, c'est que, bon, dans un milieu germaniste, j'ai été nourri de romantisme allemand, des contes de Grimm, puis des contes d'E.T.A. Hoffmann, des contes de Tieck, de Novalis, de Heine, de Uhland, qui a été écrit tellement de poèmes sur le Moyen-Âge, et que pour moi, ce vieux continue en cette continuité de la littérature populaire au Moyen-Âge, sur laquelle on peut ricaner, mais qui existe bien, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le cheminement que j'ai suivi. Et j'aime les chansons populaires. Je me chante Am Brunnen vor dem Tor, pas comme Dietrich Fischer-Dieskau, mais quand je suis tout seul dans ma voiture. Et puis des chansons françaises aussi, parce que vraiment. Et cela me renvoie, je le dis narcissiquement, à la fois à mon enfance, à ce que j'ai toujours aimé, et à ce qui est en arrière-fond, pas lorsque, ou encore lorsque je lis les poèmes du Graal, mais lorsque je lis les troubadours.
Alors je le disais à l'orée de cette émission, vous êtes le grand médiéviste français, académicien, professeur honoraire au Collège de France. Vous êtes, et vous republiez donc en cette rentrée d'hiver, Seuls les enfants savent lire, donc c'est aux Belles-Lettres. C'est un petit livre extrêmement savoureux, tendre, drôle aussi, sur les livres qui vous ont marqué quand vous étiez enfant, des livres de classe, des romans pour enfants ou des romans tout court. Des aventures de Culberry Finn au général Dourakin, de la comtesse de Ségur, à des romans moins connus, en fin de mois, hein, je dois le confesser, comme À l'ombre des ailes d'Ernest Perrochon, que je n'ai jamais lu, ni Le voyage d'Edgar, d'Edouard Pesson. Alors, Perrochon, c'était un instituteur, prix Goncourt pour Naine, c'est ça,
oui,
en 1920. Et le roman d'Edouard Pesson, là, dont je parlais, Le voyage d'Edgar, qui était présenté, puisque vous reproduisez aussi des couvertures très très belles dans ce livre, présenté comme livre de lecture courante, court, moyen et supérieur, était en fait sorti simultanément comme livre normal en librairie. Il a d'ailleurs obtenu le Grand Prix de l'Académie française. Vous pensez qu'on pourrait donner ça pourrait arriver aujourd'hui, au fond, qu'on donne aux enfants...
Mais non, justement pas. Le voyage d'Edgar méritait tout à fait le Grand Prix du roman de l'Académie française. Mais aujourd'hui, un livre qui obtient ce prix ne serait plus lisible par des élèves de CM2.
Parce que vous faites une distinction, et j'aimerais que vous éclaircissiez un peu cette phrase que je vais lire. C'est au moment où vous parlez de Culberry Finn, donc de Mark Twain. Dieu merci, je n'avais pas lu Les aventures de Tom Sawyer, roman pour enfants plein de charme, mais qui n'est rien d'autre qu'un roman sur les enfants. Et pour les enfants. Huck Finn, dont le prestige était augmenté pour moi de se référer dans ses premières lignes à ce mystérieux Tom Sawyer que je ne connaissais pas, n'en est la suite qu'en apparence et ne peut être défini comme un roman pour enfants. Qu'est-ce qui définit le roman pour enfants et le roman pas pour enfants, alors que vous-même, vous nous dites que vous lisiez à l'époque, à l'école, court, moyen, des livres qui obtenaient le prix de l'Académie française.
Vous avez absolument raison. Lorsque je lisais Le voyage d'Edgar, je ne savais pas qu'il avait été publié aussi comme vrai roman et qu'il avait eu le grand prix du roman de l'Académie française. Dans le cas Mark Twain, Tom Sawyer, les aventures de Tom Sawyer, les farces, cette espèce de jeu très bien vu, ce jeu des enfants qui jouent à être des pirates, qui jouent à être des brigands, etc., jusqu'à un certain point, eh bien, ce jeu bascule dans Huck Finn, parce que Huck Finn croit imiter Tom Sawyer. Huck Finn, qui est un petit sauvageon, admire le petit bourgeois qu'est Tom Sawyer, et puis l'éducation qu'il a. Il ne se rend pas compte que lui qui n'a pas d'éducation voit les choses beaucoup plus sérieusement que Tom Sawyer. Et lui est confronté à une question extrêmement grave, qui est la question de l'esclavage, de l'émancipation des Noirs, etc. À ce moment-là, le roman pose ces questions avec une fausse naïveté, celle de Huck Finn lui-même, qui est encore un enfant et qui ne sait rien. Et tout cela, cette façon de traiter ces questions, est admirable parce que le roman est lisible pour des enfants. C'est pour ça que ma formule à l'emporte-pièce est peut-être idiote. Il est lisible pour des enfants et il peut les séduire ô combien, et j'en suis la preuve vivante. Mais en même temps, il pose des questions d'une extrême gravité. Il les pose avec une ironie qui dépasse probablement les capacités de l'enfant à la comprendre vraiment, mais qu'il comprend sans la comprendre tout de même, qui est extraordinairement formatrice. C'est merveilleux.
Alors, vous pressentez ce qui est très, parfois très, très drôle dans ce livre, parce qu'évidemment, vous songez à l'enfant que vous étiez, lisant, par exemple, Le Prince Eric de Serge Dalens. Alors, vous sentez qu'il y a un petit problème, sans comprendre tout à fait. À cette époque de l'immédiate après-guerre et du début de la guerre, les jeunesses hitlériennes auraient pu, sans manquer au fair-play, être représentées sous un autre jour que celui de charmants camarades. C'est-à-dire que vous avez...
Ah ben ça, je me rendais compte.
Voilà.
Ça, c'est une réflexion que je me faisais.
Parce qu'on est quand même en 40, quoi.
Ah bon, on n'est pas, moi je venais en 40, ouais. Donc je disais ça vers 55, ouais, ouais. Mettons, 55, ouais. 57. Mais
publié
comme
en 40,
dit,
c'est quand
même. Oui, c'est ça. Enfin, il y a des choses, on peut reprocher voilà. À Serge Dalens beaucoup de choses. Hein. Et cela, je le lisais avec passion, naturellement. Mon père est alsacien, était professeur d'allemand. Ma mère était germaniste aussi, elle avait passé son enfance en Allemagne. Et en plus, elle était demi-juive. Donc c'est des questions auxquelles j'étais vraiment sensibilisé. Et cette histoire de jeunesse hitlérienne me choquait quand je lisais le livre. Ça, c'est quelque chose que je voyais clairement.
Alors, pourquoi cette phrase que vous résumez, les livres que vous lisez, vous vous en souvenez, vous expliquez que vous l'avez écrit sans vérifier, hein, c'est ça. C'est juste un appel au souvenir. Hein, donc, voilà. Bravo pour la mémoire.
Je dois dire, j'ai une mémoire remarquable pour les choses idiotes.
Voilà. Est-ce que c'est une chose idiote que l'amour des livres? Parce que vous avez quand même cette phrase dans le livre, l'amour des livres est un amour d'enfance. Est-ce que c'est pas un peu injuste pour les adolescents? Et en quoi ce serait pas, je veux dire, une passion adolescente? Ou même un dernier amour, un amour de maturité? Pourquoi l'amour des livres serait seulement un amour d'enfance?
Non, vous avez...
Michel Zinc, vous
abusez. Avez absolument raison. Voilà. Vous avez absolument raison. Mais il y a une façon d'aimer qui évolue au cours de la vie. Et l'amour des livres, d'une certaine façon, je l'éprouve de plus en plus, mais avec, en même temps, une distance. À l'adolescence, bien sûr, mais l'adolescence est un âge tellement bête. On aime avec passion, on se croit génial. Enfin non, j'explique pourquoi
je croyais plus génial. Je dirais fou plutôt que bête. Non,
ce serait trop beau. Ce serait trop beau. Non, pour moi, l'enfance a une perfection avant la puberté, vers 12 ans. Et à ce moment-là, on est d'une intelligence et d'une lucidité détachée admirable qu'on perd pendant plusieurs années ensuite.
L'amour des livres est un amour d'enfance, écrit Michel Zinc. Vous êtes d'accord, cher Dantzig?
Ah bah si l'enfance se perpétue jusqu'à la mort, c'est mon cas. Oui, je pense car. Si l'enfance est un état de naïveté dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire d'ouverture sans sarcasme, etc., nous conservons cet esprit-là, en tout cas les lecteurs de littérature, très longtemps, et Dieu merci.
Vous confessez aussi dans ce livre, Michel Zinc, que vous lisiez beaucoup de contes. Autre phrase révoltante, je les aimais à l'excès, je leur devais la conscience douloureuse et aiguë que la vie est pauvre au regard de la littérature. Enfin, oui. c'est comme l'amour des livres est un amour d'enfance.
Mais non. Alors là, c'était un sentiment bête. J'accepte tout. Mais je voulais dire que ensuite, j'allais me promener dans la forêt et je rencontrerais jamais de fées. Je savais bien.
De fées.
Et il ne se passerait jamais rien d'extraordinaire, sauf que je trouverais peut-être des champignons et encore, je les voyais moins bien que mes sœurs. Et alors, je continuais ma promenade, je marchais énormément. Je me disais, mais je vais aller jusqu'au prochain tournant du sentier, peut-être qu'il se passera quelque chose. Et puis encore au suivant, etc. Et il ne se passait jamais rien. Je savais bien qu'il ne se passerait rien. En ce sens, oui. Les contes me disaient que la vie est décevante, qu'au prochain tournant de la vie, il ne se passe jamais ce qu'on pourrait rêver.
Oh, bon, on va vous entendre lire un extrait. J'ai choisi justement un extrait de cette postface qui est de 2018, donc 10 ans après la publication de ce livre. Et c'est un nouveau regard, en fait, que vous portez 10 ans après sur ce livre, Michel Zinc.
Si en 10 ans, Le regard que je porte sur mes lectures d'enfance a un peu changé. La faute en est cependant moins aux années écoulées qu'à moi-même. J'avais écrit ce livre sans relire, à une exception près, ce dont je parlais. Mais il m'en a donné l'envie. Après l'avoir écrit, je me suis trouvé relevé de mon vœu, que j'ai enfreint avec plaisir. Et puis des lecteurs ont réveillé ma mémoire. L'un me soufflait le nom du jésuite belge Albert Hublet, auteur d'ouvrages chrétiens pour la jeunesse, parmi lesquels « Têtes folles » et « Cœur d'or » que je lisais et relisais enfant inlassablement. Un autre me rappelait que le titre oublié de mon livre de lecture courante en classe de 10e, « Roman scolaire pour le cours élémentaire » du très laïque Ernest Perrochon, était « Tap Tap et Bilili », Tap Tap étant le surnom d'un petit garçon turbulent qui tapait toute la journée sur son tambour, tandis que Bilili était celui de sa sœur et reproduisait les onomatopées de la berceuse avec laquelle elle endormait sa poupée. À vrai dire, il m'eût été facile, il y a 10 ans, d'opérer moi-même ces vérifications. Je m'en étais abstenu par paresse, mais plus encore par coquetterie. Les lacunes avouées de la mémoire apportant la preuve que je ne trichais pas avec la règle que je m'étais fixée. Cela me permettait des effets de style d'une élégante désinvolture. J'ai oublié le titre de ce livre qui m'a tant marqué, etc.
Merci Michel Zinck.
Vous n'avez pas cité le livre que j'aime le plus de tout ça et qui est peu connu, c'est « Entrer dans la danse » de Colette Vivier dans la Bibliothèque Rose. Bibliothèque Rose tout à fait atypique et dont certains ont peut-être lu de Colette Vivier « La maison sans dessus-dessous » qui a été plus diffusée. Mais « Entrer dans la danse », c'est un pur chef-d'œuvre.
Je ne l'ai pas cité parce que parfois je me demande si ce sont des chefs-d'œuvre. Parce que vous dites aussi, les impressions nouvelles produites par mes relectures sont moins vives que les anciennes.
Pas pour entrer dans la danse.
Ben oui, mais est-ce que c'est pas aussi parce que maintenant vous avez le jugement, la culture, l'expérience peut-être pour apprécier vraiment leur qualité littéraire et qu'ils n'étaient peut-être pas tous si terribles
oui,
que ça.
C'est vrai pour certains, mais pas pour rentrer dans la danse.
Alors, il y a quelque chose qui va passionner Charles Dantzig, c'est quand vous parlez des images. Parce que, Charles Dantzig, vous aimez mettre des images, parfois, dans vos textes, qui sont des textes pour adultes, enfin, pas pour les enfants. Et Michel Zinck, vous parlez dans ce livre, qui reproduit donc des illustrations, des couvertures, qui est très
pas seulement des couvertures,
bellement reproduites, ouais. Et des illustrations, notamment une, page 70, une illustration d'Émile Bayard pour le général Dourakin de la comtesse de Ségur, où l'on voit Madame Papowska prise au piège dans la trappe qui s'est ouverte sous ses pieds et qui se fait cruellement fouetter sans qu'on le voie, mais... Le lecteur enfant imagine, en fait, le voit. Dans cet amour d'enfance qu'est la lecture, vous diriez que l'image a autant d'importance que le texte ?
Les illustrations n'avaient pas pour moi autant d'importance que le texte. Et je voyais très bien aussi le décalage. Je voyais aussi que l'esprit des illustrateurs variait. D'ailleurs, pour la comtesse de Ségur, entre les différents illustrateurs, c'est très frappant. Mais enfin, évidemment, dans mon souvenir, les images accompagnent, surtout pour celle-là, qui est ultra connue, oui. Il faut bien le dire. Je dis que dans les aventures de Salimara, de Queneau, le jeune Français là qui est à Dublin cache un livre qu'il lit en cachette et dit oh là là, il veut pas le montrer aux jeunes filles, etc. Et quand il est parti, c'est la comtesse de Ségur et il a écrit dessus. La comtesse était aussi névrosée que les enfants Marat. Et il a tort.
Chalon, c'est que vous proposez des images aux adultes dans vos livres.
Oui, car ça n'est pas le même type d'image que les images des romans pour enfants qui sont des illustrations. Dans les romans pour enfants, en général, l'image vient redoubler le texte et un dessin nous redit ce que la phrase vient de nous dire. Ce que j'essaie de faire quand moi je propose des images parfois dans certains de mes livres, c'est que ce sont des images qui ne sont pas des illustrations mais qui sont en quelque sorte un exercice de rhétorique où l'image est un supplétif. Et donc mes images sont plutôt en quelque sorte comme si c'était un adjectif ou un adverbe qui était dans ma phrase et qui crée un effet un peu de cacophonie volontaire.
Enfin, vous pourriez mettre un adverbe ou un adjectif. Utilisez une image.
Oui,
en quoi le fait que ça soit visuel, que ça soit iconographique...
Précisément parce que ça crée un effet de cacophonie volontaire dans le rythme. C'est un peu comme quand, je ne sais pas, Beethoven dans une symphonie met deux coups de cymbales qui ont l'air un peu aberrants et on se dit que c'est pour réveiller l'auditeur qui a écouté pendant très longtemps son leitmotiv.
Et vous lisiez quoi, Charles Lansing, enfant? C'était... Est-ce que vous lisiez Perrochon, par exemple?
Je lisais beaucoup de choses qui n'étaient pas de mon âge, et c'est ce que je recommanderais à tous les parents. On m'avait dit, tu n'iras pas là, en me montrant un certain endroit de la bibliothèque de mon père qui venait de mourir. Et évidemment, quand on m'avait dit, tu n'iras pas là, je suis allé là, et c'était le rayon de poésie de mon père, ce qui fait que très très jeune, j'ai lu Baudelaire, Verlaine et Musset.
Très très jeune, c'est-à-dire à quel âge?
6-7 ans, ouais. Enfin vraiment très jeune. Ouais. Quoi. Et je ne peux pas dire que je le comprenais, mais je sentais que j'entrais là dans un monde très étrange et merveilleux et qui me paraissait beaucoup plus sérieux que d'autre part les livres d'enfants que je lisais et qui me plaisaient aussi beaucoup.
Vous en lisiez aussi, vous lisez.
Je lisais aussi La Comtesse de Ségur, je lisais aussi bien sûr des choses comme ça, mais les choses qui me fascinaient le plus, j'ai lu une Iliade et une Odyssée abrégées pour les enfants avec des illustrations et pour moi ça c'était la beauté du monde.
Et les contes et légendes, vous lisiez ça? Parce que moi c'est vrai que j'ai eu aussi alors ça cette collection Contes et légendes de Pologne, ça, je crois qu'il y avait chez Hachette notamment, ça vous les aviez.
J'étais moins attaché aux contes et légendes parce que ça c'est probablement des tournures d'esprit parce que je sentais bien que c'était des fantasmagories et que ça n'était pas un mal mais ça n'était pas ma tournure d'esprit. De la même façon que maintenant, j'ai pas une grande passion pour la littérature de science-fiction par exemple. C'est-à-dire la littérature complètement détachée de ce qu'on appelle, à tort d'ailleurs, le réel, comme si la littérature elle-même n'était pas un réel.
Vous parliez de cette lecture à haute voix de la recherche en continu que faisiez à vos enfants, à quel âge à peu près?
J'ai commencé, quand ma fille aînée avait 15 ans, j'ai dit tu peux commencer pro, genre lisais énormément à haute
voix. Et vous lisiez à haute voix?
Et là, j'ai dit mais je vais d'abord commencer en te lisant, c'est un peu difficile, tu continueras toute seule. Puis ça lui a tellement plu, elle préférait que je lise moi, sa petite sœur qui avait pas tout à fait 13 ans, écoutait et ça l'a passionné tout de suite. Même le début, enfin, où l'homme qui dort, etc., c'était passionné. Et mon fils avait, pas tout à fait 10 ans, il était un peu jeune, alors j'ai recommencé pour lui plus tard, mais c'est lui qui a eu la totalité, parce que ça a duré des années.
Donc de
mes
10
filles
à...
sont entrées dans les écoles, sont mariées, etc. Et avec mon fils, j'ai terminé quelques semaines avant son mariage. À la fin, sa fiancée écoutait, et l'an d'après, elle a fait une maîtrise sur Proust.
La transmission.
Et on était tellement triste quand ça a été fini qu'on a recommencé, on a relu les 150 premières pages du début et on a vu à quel point le temps retrouvé quand même coïncide, s'emboîte exactement sur le tout début. C'est vraiment très remarquable.
Magnifique. Michel Zinc disait qu'il n'avait pas relu ses lectures d'enfance pour écrire ce livre à l'état adulte. Est-ce que vous avez revu Peau d'âne de Jacques Demy? Parce que tourné à Chambord, pas seulement à Chambord, mais à Chambord, parce qu'on apprend dans Chambord des songes que c'est pas vous qui le dites directement, mais c'est une amatrice de château, que Jacques Demy et Michel Legrand se seraient embrassés, non pas d'ailleurs à Chambord, mais dans un château Henri III de la forêt de Rambouillet. Réalité ou fantasmagorie?
Non, c'est tout à fait une réalité, c'était que c'était un autre château, c'est-à-dire que à Chambord a été tournée la fameuse scène d'hélicoptère, et que les parties de ferme, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le film de Jacques Demy, il y a des parties
bien sûr,
été tournées dans un autre
château. Gâteau notamment.
Et ont été tournées dans un autre château qui avait été prêté par cette femme que je connais et qui m'a raconté ça, ce qui est tout à fait charmant.
J'ai cru que vous alliez dire par cette fée que je connais.
Je connais beaucoup de fées.
Et on poursuit avec vous, Charles Lansing, et ce Chambord des songes. Alors, votre choix musical, vous, c'est « Into each life some rain must fall », donc dans chaque vie, un peu de pluie doit tomber, des Inkspots, avec la participation d'Ella Fitzgerald.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine.
Into each life some rain must fall, but
too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine.
J'aime bien ce petit climat, voilà. Ella Fitzgeraldien. Into each life, some rain must fall, the ink spots. Donc avec Ella Fitzgerald, c'est le choix de Charles Dancy qui publie Chambord des songes. L'idée de château mène le monde, c'est le sous-titre. C'est chez Flammarion. Les taches d'encre, ink spots.
Les taches d'encre, c'était un peu ironique de leur part car c'était un groupe très très fameux des États-Unis des années 40 et 50 et je crois qu'ils se sont appelés les taches d'encre parce qu'ils étaient tous noirs et c'était un effet d'ironie de leur part. Et ils étaient tellement célèbres que Ella Fitzgerald, comme on l'a entendu dans cette chanson, chantait avec eux et c'est un titre que j'ai choisi spécialement pour cette émission, cher Christophe, parce que ça dit, vous l'avez dit tout à l'heure, dans chaque vie doit tomber un peu de pluie, et me rappelant la phrase de Ionesco, je crois, la tragédie c'est un roi qui a des malheurs, je me suis dit que mon Dieu, avec toutes les catastrophes qui sont passées à travers Chambord, ça pouvait être approprié.
Alors Chambord, donc un petit rappel quand même, Charles Dancy, vous êtes l'auteur du dictionnaire égoïste de la littérature française, du traité des gestes, vous étiez venu en parler dans cette émission, de à propos des chefs-d'œuvre par exemple, il y en a d'autres, je ne citerai pas tous, vous publiez Chambord des songes, hein, donc c'est chez Flammarion, sous-titré L'idée de château mène le monde, et c'est l'idée de Chambord qui vous mène, vous, à travers ces 300 pages caracolantes ou en une trentaine de chapitres, vous survolez les tourelles et les clochetons de ce lieu de pouvoir de François Ier, qui n'aura passé que 42 jours à Chambord, à Donald Trump, qui est mentionné, qui revient comme un petit personnage aussi. On parle aussi de Chilpéric, qui ne connaissait pas Chambord, mais que Grégoire de Tours traita de Néron, de quelques tyrannicides, d'une amoureuse de château. Alors c'est elle dont je parlais, qui aurait vu Jacques Demy et Michel Legrand s'embrasser du côté de la forêt de Rambouillet pendant le tournage de Podane, tourné aussi à Chambord. Parlait aussi de la grande mademoiselle qui parlait de Chambord comme de la maison, avec toujours votre goût des aphorismes, de la digression, du paradoxe, des pages d'histoire aussi, et de la liste. Alors des châteaux, on pouvait en faire la liste, mais c'est Chambord qui a retenu votre attention. Pourquoi avez-vous dirigé vos songeries sur ce château-là, ce gâteau de flammes posé sur une plaine? On n'ose pas croire que c'est juste à cause de ses 500 ans. C'est un bel anniversaire, mais ce n'est qu'un prétexte.
Oui, non, même pas du tout. En réalité, je crois que c'est pour deux choses. C'est parce que c'est vide, donc ma vanité pouvait s'étaler dans ce vide et personne n'allait me faire obstacle.
Oui, c'est un château vide. Hein.
C'est un château vide, il n'y a rien. Et d'autre part, j'ai toujours eu une affection pour les rois valois. On n'en parle plus beaucoup de nos jours, mais je trouve que la famille valois, avec ses diverses branches, était une famille très intéressante. Et François Ier était l'un d'eux, mais... Vous savez, je vous parlais de la croûte de légende qui recouvre Chambord. La première est qu'on ne connaît pas son architecte, par exemple, et beaucoup de gens nous disent que c'est Léonard de Vinci, ce qui est absolument faux. François Ier avait eu l'idée de construire une ville nouvelle à Romorantin à côté. Là, Vinci a fait des plans, mais ça n'est pas vrai. Donc, on n'a pas de plan, on n'a rien. On a juste quelques états de chantier avec des factures qui ont été payées. Donc, on ne sait absolument rien de ce château, qui a la beauté probable de ne servir à rien et qui est tellement beau et tellement monstrueux dans sa beauté qu'il a, à mon sens, exterminer tous ceux qui sont passés à travers lui, à l'exception de son créateur qui est François Ier. Mais tous les gens qui sont passés dans ce château, et ils sont très nombreux, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'en fait, à travers Chambord, toute l'histoire de France passe. C'est-à-dire que, je ne vais pas citer tout le monde, mais évidemment, il est devenu à un certain moment la propriété de Louis XIV. Louis XIV y a fait créer une pièce de théâtre très importante, qui est le Bourgeois Gentilhomme. Le Bourgeois Gentilhomme de Molière a été créé là, et ça veut dire quelque chose. Ensuite, de quoi j'ai découvert, ça c'est, je crois, la seule découverte que j'ai pu faire, parce que beaucoup de choses ont été écrites sur ce règne et ce château. À propos de Chambord, dans les mémoires d'un petit général d'Empire qui s'appelle Desvernois, j'ai découvert que le directoire avait pensé à un certain moment offrir le château de Chambord à Bonaparte, après le traité de Campoformio, pour le récompenser. Seulement, les directeurs étaient tellement envieux de Bonaparte, ce petit maigrichon dont ils sentaient bien qu'il avait une ambition bien plus importante que sa maigreur, et ils ne le lui ont pas donné. Mais vous imaginez un peu les adieux de Chambord au lieu des adieux de Fontainebleau. Et puis tout ça jusqu'à aux temps les plus contemporains. Vous savez que par exemple en 1940, il y a une chose très belle qui s'est passée à Chambord, c'est que des tableaux du Louvre ont été rapatriés à Chambord pour éviter que les Allemands ne les saisissent. Il y en avait partout, on en a quelques photos en noir et blanc qui sont très amusantes, car on voit des caisses partout dans Chambord qui étaient vides, et ce sont des caisses en bois toutes bêtes à l'intérieur desquelles se trouvent des chefs-d'œuvre. Il y avait trois catégories, il y avait des étiquettes, 1 point, 2 points, 3 points. Alors les tableaux 1 point, c'était les tableaux d'importance nationale, 2 points, c'était des tableaux extrêmement beaux, et 3 points, il y en avait un seul, c'était la Joconde, et c'était assez beau parce que ce tableau que, évidemment, comme nous savons, François Ier avait acheté à Léonard, et qui n'était jamais allé à Chambord, est revenu et a trouvé sa protection dans ce château.
Oui, c'était aussi le jeu de ce livre. On se déplace dans une sorte de labyrinthe à la fois spatial et temporel. Je voudrais qu'on vous entende lire un extrait de Chambord des songes.
En France, la Révolution a servi les châteaux en renversant l'aristocratie. Elle a chassé les diadèmes, raccourci les traînes et, sans plus de pans dans les salons, les murs ont conservé le charme. C'est parce qu'il écrit le capitaine Fracasse 74 ans après 1789 que Théophile Gautier peut y faire monter l'appétissante chantilly de ces deux châteaux, le château délabré du baron de Cigognac au début, puis le pimpant château du marquis de Bruyère. Château de Cigognac dit château de la misère. En poussant le ventail mobile de la porte, qui ne cédait pas sans protester et tournait avec une évidente mauvaise humeur sur ses gonds oxydés et criards, château des Bruyères. Au claveau des fenêtres, une tête de femme sculptée, à joues rebondies, à coiffure attifée coquettement, souriait d'un air de bonne humeur et de bienvenue. Rien n'était plus gai à l'œil. Gautier, un gourmand, a quand il écrit la patience et la prestesse d'un cuisinier face à 3 poêles, un four et 10 saucières. Que fait d'autre un écrivain que, de temps à autre, construire un château sous forme de livre? Tout songeur veut son chef-d'œuvre. Sans les châteaux, le monde serait paisible comme vache qui broute. L'idée de château mène le monde.
Merci Charles Dantzig, un extrait de Chambord des songes. Que fait d'autre un écrivain que de temps à autre construire un château sous forme de livre? Il y avait un jeu justement formel aussi, vous faire aussi ce petit château avec tous ces clochetons, ces choses trappes, ces choses qu'on découvre toujours dans Chambord d'ailleurs.
Très exactement, oui, tout à fait. Je dis que j'ai essayé de remeubler ce château par ce qu'on peut en savoir et par mes imaginations. Et aussi, comme je vous le disais au début, Christophe, j'ai aussi proposé une chose, c'est que c'est le château de l'humanisme, disons-le brièvement, mais malgré tout, c'est ça. Et la première ligne de mon livre dit « c'est le plus beau château du monde ». Et si les gens ont la bonté de continuer quelques chapitres, ils verront que je conteste moi-même cette phrase en disant que cette phrase est un superlatif et que le plus beau du monde, ça ne veut rien dire, parce que pour commencer, personne ne connaît le monde entier. Et que la leçon de Chambord et de l'humanisme, c'est le relatif. Et nous vivons dans des temps superlatifs que je trouve extrêmement dangereux, où c'est la politique du le plus en permanence. Et nous savons, c'est pour vous citer Trump, mais c'est à dessein que je l'inscris dans mon livre, parce qu'il est une des incarnations de ce que j'appelle le superlativisme et qui est tout à fait néfaste.
Oui, parce que c'est un livre aussi sur, vous dites, l'idée de château mène le monde. L'idée de pouvoir mène le monde, et pas seulement l'idée, son application.
On parlait de songes et de rêves, il y a des mauvais rêves qui mènent le monde en ce moment.
Alors, le grand match Versailles-Chambord, je vous cite Charles Dantzig, la surprise est une caractéristique du génie. L'artiste, l'écrivain, le peintre, le musicien, l'architecte a créé une œuvre qui n'est pas plane, sous-couche, recoin, densité, quelque chose à découvrir chaque fois qu'on y revient, et ce n'est pas plus une question d'aventure, dans les livres, que de plénitude, dans un château. Dans Beckett, où on ne trouve pas d'aventure, il y a plus à imaginer que dans Dan Brown, où il y en a trop. Chambord, qui est un château vide, nous étonne plus que Versailles, qui est un château plein. Que ça fait immeuble bureaucratique à prétention Versailles, comparé à Chambord? Et pourtant, ce qui me semble être une petite contradiction, car vous dites à la page 205, dans toute activité humaine, un homme écrase les autres dans l'imagination du public. Shakespeare écrase le théâtre élisabéthain, Napoléon écrase les conquérants, John Wayne écrase les acteurs de western, Hitler écrase les tyrans, etc., etc. Versailles écrase les châteaux français. Et pourtant, c'est Chambord des songes, ce n'est pas Versailles des songes que vous avez écrit.
Bah oui, mais moi je suis là avec mon petit fusil de chasse du domaine de Chambord et j'essaie de défendre mon cher petit château contre Versailles qui est plein, qui bénéficie de Saint-Simon, qui bénéficie de tas d'anecdotes, qui bénéficie de tout le monde et de des millions de visiteurs par an. Non, peut-être un peu moins.
Michel, il semble qu'on peut défendre Charles Dantzig. Il n'y a pas de contradiction, parce que ce n'est pas la même chose d'écraser les autres châteaux et d'être ce château, comme je le disais tout à l'heure, auquel on voudrait parvenir au terme du chemin dans la forêt. Chambord est ce type de château.
Exactement, qu'on ne voit pas.
C'est pour ça que j'emploie le mot surprise. Oui. C'est-à-dire qu'une des grâces de Chambord, comme de beaucoup de châteaux du Val-de-Loire, ce qui était un moment d'un goût exquis quand on les a construits vers 1500, c'est que Chambord n'est pas posé sur un promontoire, Chambord ne s'exhibe pas comme, malgré tout, Versailles le fait en haut de sa colline, c'est au détour d'un coin, et on a, il y a quelque chose d'un don. C'est un château qui est une forêt lui-même, et qui arrive comme ça, par surprise, et qui
Demis, s'il n'est pas trompé, on en parlait tout à l'heure, et vous parliez de cet hélicoptère, cet élément de cacophonie aussi, qui est l'hélicoptère dont vous parlez, dans ce livre, en choisissant Chambord. C'est vrai que là, la féerie est dans Chambord. Pour terminer, Charles Dantzig, on parlait du passé, on a beaucoup parlé du passé dans cette émission. Il y a un chapitre qui s'appelle « Compréhension du passé », qui vous sert aussi d'occasion à donner quelques listes. Vous écrivez « Ce qui nous sépare des périodes anciennes comme des lieux présents mais lointains, ce sont les mots. Nous avons presque les mêmes, pourtant nous les comprendrions à peine. » Vous parlez en fait d'une lettre de 1526. « L'orchestration a changé. Le passé est un autre lieu, il est loin dans l'espace. Le premier plan est occupé par nous, le passé est au fond de la forêt. Il n'y a pas de passé, hélas, il n'y a que des ailleurs. » Le passé est un lieu,
le passé
mais qui n'existe pas.
Écoutez, quand j'étais enfant, moi j'étais persuadé que le passé était dessous. Et que sous moi, il y avait Versailles, Louis XIV, François Ier, sous la terre. J'avais cette notion que le passé était quelque chose de l'espace. Mais qui nous dira le contraire? Le temps, qu'est-ce que c'est? Le temps, il n'y a pas derrière nous, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé. C'est ici et maintenant.
C'est l'argument de Narnia que je regrette infiniment d'avoir
de
pas
Lewis,
eu enfant.
De Lewis, bien sûr.
De Lewis. Oui. C'est les deux premiers, enfin, il a écrit le second d'abord, c'est le génie à l'état pur, et c'est quelque chose qui illustre cette proposition.
Oui, ou Nerval, j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Si on nage, la sirène est forcément en dessous. Alors, c'est pas le passé, mais c'est la féerie.
Je vous laisse la responsabilité de cette proposition.
Voilà. Je l'endosse, Michel Zinc. Un mythe pour finir, voilà, je m'adresse à tous les deux. On connaissait l'histoire des rois francs qui s'étaient inventé une ascendance mythique avec Aîné, les princes troyens exilés se seraient établis en Gaule. Vous nous expliquez, Charles Dantzig, qu'un certain Jean Lemaire de Belge, historiographe du prédécesseur de François Ier, qui publie « Des illustrations de Gaule et singularités de Troie », inverse, c'est votre expression, le prestige. Ce seraient des Gaulois qui seraient les ancêtres des Troyens. On joue un peu avec les songes du passé, là.
Mais complètement, mais vous savez que ça arrive en permanence, donc ça c'est un fait historique tout à fait avéré, je parle sous les auspices de Michel Zinc, mais que Jean Lemaire ait fait ça, mais c'est une chose qui se produit en permanence. Vous remarquerez, cher Christophe, que chaque fois qu'un président de la République française est élu, dans les temps les plus contemporains, il y a toujours un journaliste pour nous expliquer, mais très très vite après son élection, qu'il est en fait cousin avec la reine d'Angleterre.
Et il va à Chambord souvent.
Oui, mais tout ça, ça veut dire que on cherche toujours à s'accrocher à une magie et à l'inventer, parce qu'au fond, les gouvernants sont complexés par une idée terrible qui est celle de la légitimité.
Michel Zinc, oui, vous connaissez Jean Lemaire.
Jean Lemaire de Majou, enfin, je ne lis pas tous les soirs. Mais
c'est
enfin,
le cousin.
Voilà. Oui. Mais il inversait le système, mais qui a été pratiqué par tout le monde. Les rois de France ne revendiquaient pas aînés, c'était les rois d'Angleterre, et dynastiquement, uniquement. C'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils d'aîné, Brutus, qui débarque en Angleterre, qui tue les géants, ça, et c'est comme ça qu'il occupait, et ensuite, il y a la succession des rois à travers le roi Arthur, jusqu'au
point. On revient toujours à Aîné, quoi.
Mais oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que les rois de France, eux, sont allés plus tard chercher Francion, aussi un prince troyen, mais c'est ce qu'avait fait les Romains, en se cherchant un Troyen qui était aîné.
Exactement.
Tout le monde fonctionne de la même façon.
Jules César disait qu'il descendait de Vénus.
Mais voilà, du côté des protecteurs des Troyens, et les Capétiens, qui avaient chassé les Carolingiens, disaient qu'ils avaient une relation de parenté avec les Carolingiens, ce qui leur permettait de récupérer Charlemagne et d'être porté par les chansons de geste.
Et c'est ce qui nous dit que le passé et l'histoire est formidable aussi quand elle est regardée par les écrivains. Merci à vous deux. Je rappelle le titre de vos livres, Charles Dantzig, Chambord des songes, c'est chez Flammarion. Michel Zinc, Seuls les enfants savent lire, c'est aux belles lettres. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Bernard Lagnel à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcasté pendant un an et réécouté à l'infini sur franceculture.fr, donc pas du tout pendant un an pour une émission sur le passé. Abolissons le temps à l'infini, 7h avec Michel Zinc et Charles Dantzig.